Bonjour Mathieu Jaton.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Montreux Jazz Festival. Vous allez nous présenter la 48e édition qui se tiendra du 4 au 19 juillet. Quelle ligne éditoriale artistique souhaitiez-vous donner à cette édition ?
Alors, on est resté sur les bases et les fondements qu'on a créés l'année passée, notamment avec le positionnement de nos trois salles payantes, puisque je vous rappelle qu'on a à Montreux une activité gratuite qui est à l'extérieur et sur les quais, et dans le Montreux Palace avec les activités pédagogiques, et une activité payante qui se résume à trois salles. L'Auditorium Stravinsky, une grande salle de 4000 places qui est vraiment pour ce qu'on appelle très mainstream, et les grandes stars et les légendes en fait qui ont fait toute l'histoire de Montreux. Le Montreux Jazz Club, le petit nouveau depuis l'année passée, qui est une petite salle de jazz intimiste de 350 places autour de tables rondes. Et le Montreux Jazz Lab, qui est vraiment dédié, on va dire, à la musique d'aujourd'hui, au buzz du moment, à la musique contemporaine, d'une salle de 2000 places.
D'accord.
Donc là, on est très fiers cette année, puisque on va dire que le positionnement de ces trois salles est très clair. Et si je prends au niveau du Stravinsky, alors il y a quelques pépites, évidemment. Donc quand on parle des légendes de Montreux, je dirais la principale, évidemment, c'est Stevie Wonder. Alors, la venue exceptionnelle à Montreux de Stevie Wonder.
Alors ça, c'est vraiment incroyable. Excusez-moi, je vous coupe, Mathieu, mais c'était une envie qui était présente depuis le tout début du festival. Claude Nobs voulait le faire venir.
Alors, ça fait des années que Claude Nobs dit, ben voilà, un des derniers rêves que je n'ai pas accompli, c'est de faire venir Stevie Wonder à Montreux. Ouais. Il a toujours dit, d'ailleurs, j'ai fait venir Stevie Wonder au Montreux Jazz Festival à Tokyo en 1999, ce qui était vrai, mais je l'ai toujours pas fait venir à Montreux. Et quelque part, pour nous, c'était le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Claude cette année, en faisant venir Stevie Wonder à Montreux, qui a accepté. C'est ma phrase. On sait dans ce business, il y a pas mal de facteurs qui font que ça marche pas. Et cette année, ça a marché. Donc, on a tiré dans le but. La balle est rentrée. Donc, tant mieux.
Alors, on peut imaginer que le facteur principal, c'est un facteur économique. Mais il n'y a pas que ça. Comment vous faites, vous, pour leur donner envie de venir chez vous, pour les séduire? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne chez vous. Comment vous faites? Alors, on va parler de Stevie Wonder, mais on parlera ensuite de Robin Thicke, de Pharrell Williams, pour faire en sorte que Stevie Wonder, eh bien vienne chez vous le 16 juillet.
Il n'y a pas de magie, il n'y a pas une baguette magique, mais c'est vrai que c'est un travail depuis des années à Montreux, où c'est vrai, Claude et toute l'équipe que nous sommes aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect accueil, de faire que Montreux est un lieu un tout petit peu différent. On a la chance d'avoir une région, un lac, des montagnes, un hôtel, un Montreux Palace qui est splendide juste à côté du site du festival. Donc il y a tout un environnement qui est propice à offrir un accueil assez différent de ce qu'on peut voir de tous les autres festivals en Europe ou dans le monde, qui sont pour la plupart, je dis bien pour la plupart, parce qu'il y a quand même bien d'autres choses, des open air. Et là, c'est vrai qu'on se trouve dans un setup qui est un petit peu différent. Après, c'est vrai qu'il y a une tradition de Montreux, dans la qualité du service, dans la qualité de l'accueil, dans la qualité des prestations de production. Voilà, Claude était le premier à enregistrer les concerts en haute définition, donc en HD, en 1991. Je ne sais pas si vous imaginez, donc ça fait en fait 20 ans avant que l'HD soit mis sur le marché européen pour le grand public. Le Festival Montreux produisait déjà des supports en HD, donc les musiciens se disaient aussi, ben voilà, si je viens à Montreux, j'ai déjà, bien avant que ça soit commercialisable, j'ai déjà un support HD de mon concert à Montreux. Et c'est plein de petites choses comme ça qui viennent se greffer, qui font la légende de Montreux et qui font, ben, je l'espère, que ces artistes-là se disent, ben, s'il y a un concert cette année que j'ai envie de faire, c'est celui de Montreux. Donc on a des exemples assez clairs, hein, parce qu'on a la chance encore justement d'avoir des artistes qui souhaitent faire leur prestation à Montreux. Cette année, c'est le cas de Chris Rea, qui fait pratiquement pas d'autres concerts que celui de Montreux, à ma connaissance.
Et qui n'en faisait pratiquement plus, d'ailleurs.
Et qui n'en faisait pratiquement plus. Et là, quand on a appris par son agent qu'il avait envie de faire Montreux, évidemment, alors ça nous a beaucoup touchés. Et puis, c'est un événement en soi, parce que c'est un grand monsieur. Et de l'avoir au Stravinsky le 5 juillet, c'est quelque chose de magnifique. Il y avait le cas aussi de Monty Alexander, qui est un vieil ami de Montreux. Monty n'a pas pu venir l'année passée lors du décès de Claude Nobs pour lui rendre hommage. Et il m'a téléphoné en fait en fin d'année en me disant, mais j'ai entendu parler de votre nouveau club par David Sanborn, il paraît que c'est fantastique, j'ai vraiment envie de venir avec le Kingston Express. Harlem Kingston Express, évidemment, nous, la réponse, elle est catégorique, bien sûr. Et dans un autre registre, on prend par exemple Archive. Archive, qui est personnellement moi, un groupe que j'adore, que j'ai découvert aussi à Montreux lors d'un de leurs premiers concerts, qui était en 2002, le premier concert qu'ils ont fait à Montreux en tout cas. Et là, Archive, de nouveau, le manager nous appelle en fin d'année, ils lancent un nouveau projet avec leur film Axiom, et ils ont vraiment envie de le faire à Montreux. Parce que là, on voit de nouveau, on rentre dans un domaine assez technologique où l'artiste crée quelque chose de très pointu, et quelque part qu'il fasse la propre réflexion de dire, ben voilà, j'ai envie de proposer ce projet, mais j'ai envie de le faire à Montreux. Ben, pour nous, c'est génial, parce que ça montre que toutes les petites pierres que nous avons essayé de mettre au fur et à mesure des années, ben, elle est aussi et surtout reconnue par les artistes. Et évidemment, c'est une belle reconnaissance.
Mmh, vous parliez tout à l'heure de des émotions, de cette qualité également relationnelle. Alors vous rendez à chaque fois hommage à Claude Nobs dans son travail et c'est tout à votre honneur, mais vous-même Mathieu Jaton, vous êtes capable de prendre l'avion, d'aller peut-être à New York, à Los Angeles ou à Tokyo pour rencontrer l'artiste et le convaincre de venir. C'est des choses que vous faites, vous vous déplacez vous-même, vous donnez beaucoup de votre personne pour les faire venir. C'est pas simplement deux coups de fil avec des bookers, c'est vraiment aller rencontrer l'artiste.
Ben oui, ça c'est vrai, c'est que ben là c'est peut-être notre passé ou nos racines avec Claude qui sont des racines hôtelières. Moi aussi je viens du monde de l'hôtellerie, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne et je pense qu'on gère ce festival comme si on gérait un hôtel 5 étoiles, avec une proximité avec les gens, et si tant est qu'on a accès à l'artiste directement, c'est clair que il faut que demain je prenne un avion pour New York pour aller discuter avec Lee Ritenour du concours qu'on fait avec lui cette année, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine passée. on le fait parce que c'est vrai que ça crée une magie qui est très différente, et puis à la fin on est tous des êtres humains, et je pense que pour moi une des plus belles histoires cette année était l'histoire de Johan Woodkin, artiste que j'admire plus que tout, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui travaille vraiment à 360 degrés dans tous les arts.
À qui on doit l'affiche déjà, hein.
Justement, à qui on doit l'affiche. Donc il a fait l'année passée un concert absolument fabuleux au Stravinsky avec un orchestre symphonique. Et puis cette année, nous on rêvait évidemment, parce qu'on a toujours une carte blanche dans l'affiche qu'on donne à un artiste, un grand designer. Et puis quand on réfléchissait avec l'équipe, moi je me disais, mais voilà, c'est l'univers de Johan est fabuleux et j'adorerais qu'il fasse l'affiche. Je me suis déplacé à un de ses concerts, j'ai eu la chance d'aller pouvoir le voir en backstage, etc., discuter avec lui, je lui montre les affiches de Montreux, les Kissaring, les Kissinfal, etc. Et puis il me dit, ah, j'adore toutes ces affiches et tout ça. Je dis, mon rêve, c'est que tu fasses celle de 2014. Et heureusement, la réponse a été un grand oui. Et donc, qui donne, je pense, pour moi aujourd'hui, une des plus belles affiches de Montreux. Parce que on sent vraiment qu'il y a ce travail en 3D, ce recul, cette dimension que Yon a porté entre la musique, l'art, etc., qui est assez fabuleuse. Donc voilà, ça c'est des petites rencontres, mais c'est vrai que je pense que si je m'étais pas déplacé, j'avais pas été voir Ivan directement à ce moment-là et lui parler de mon envie personnelle de faire cette affiche, ça serait peut-être pas passé. Évidemment, si j'ai envoyé juste un mail en disant coucou, il veut pas faire l'affiche, ça aurait pas été la même chose.
Alors Mathieu Jaton, on citait tout à l'heure quelques noms d'artistes qui vont être présents, bien sûr Stevie Wonder, Robin Sick, Pharrell Williams, on peut parler aussi de Buddy Guy, on a parlé de Chris Rea. Quand vous avez entre les mains cette programmation, que vous êtes que les contrats sont quasiment signés, vous mettez tout ça dans un coffre, il y a une telle concurrence en Suisse, vous avez des amis concurrents en France et en Europe, comment vous faites pour garder le secret?
Oh ouais. Ça, bon, il y a beaucoup de choses qui se savent dans le milieu entre festivals. C'est beaucoup de confiance aussi avec les agents. C'est vrai que c'est un milieu quand même assez bizarre, hein, parce que pour rappeler peut-être aux auditeurs, c'est que on fait pas un programme en se disant tiens, je vais chercher dans la liste et puis regarder ce que j'ai envie de faire. On est déjà tributaire de ce qui va tourner. Quels sont les artistes qui vont être en tournée et qui ont une actualité. À part justement les artistes que j'ai cités, qui sont vraiment des amis de Montreux, comme Chris Rea, Monty Alexander, qui eux avaient envie de venir à Montreux, même s'ils n'avaient pas un projet. Donc on est quand même tributaire des tournées, et puis après on est tributaire du marché des festivals, où comme vous l'avez dit, il y a des milliers de festivals en Europe, et chacun évidemment fait son offre sur Pharrell, sur Stevie, sur ces grands artistes que tout le monde a envie d'avoir. Après, chacun... joue ses atouts. chacun essaye de faire valoir. Nous on a la chance d'avoir eu un Claude devant nous, une histoire incroyable, et on essaie de la cultiver, on essaie de continuer cette magie. Après le secret, il y en a assez peu, on va dire, dans le business. Beaucoup de festivals savaient qu'on travaillait sur Pharrell, comme tous les autres. Maintenant, c'est quand même toujours la petite surprise de savoir qui va l'avoir.
Oui, c'est ça. Et nous, une semaine avant la diffusion du programme, la conférence de presse, on avait la chance d'être en direct du Montreux Jazz Café à Paris, à la gare de Lyon, pour le concert de Claude Diallo. Et on avait avec nous l'un de vos proches collaborateurs, Laurent Burry, pour ne pas le citer. On a essayé de le torturer pour connaître des noms. Rien, on n'a rien su. Hein. Donc vraiment, le secret est bien gardé et vraiment bravo.
Bah, je dirais qu'il y a un double volonté dans le secret, c'est pas juste d'être mystérieux. C'est que dans la configuration de Montreux, encore une fois, on a 3 salles, 16 dates, donc 48 concerts différents à vendre. Et pour nous, c'est très important que quand on communique le programme, on communique l'entièreté du programme. Puisque s'il y a une cohérence dans ce travail de programmation, un artiste porte l'autre soutient le suivant, etc. Il y a vraiment une cohérence qu'on essaie de construire là-dedans. Et c'est vrai que si on commençait à dilapider les informations et à chaque fois qu'on a une confirmation, on la balance sur le web, on aurait moins cette cohérence. Donc là, on est vraiment dans une approche plus communicative. Et c'est pour nous assez important. Et aussi, toujours dans cette philosophie de Montreux, qui est fondamentale pour nous, c'est ce qu'on appelle l'equal billing. Le traitement équivalent, c'est que pour nous, un artiste, je sais pas, mettons Benjamin Clementine, que vous connaissez bien en France,
oui.
Qui est un artiste fabuleux, mais qui est, on va dire, un jeune artiste, bah pour nous, il est écrit sur le programme de la même taille et de la même dimension que Stevie Wonder. Comme dans les open air justement, on met le gros headliner tout en haut, puis après on met les petits derniers tout petits en bas au fond, parce que de nouveau on vend 48 soirées différentes les unes des autres, et chaque soirée a sa propre valeur. Que l'artiste soit une star internationale incontestable depuis 40 ans, ou que ça soit un petit jeune nouveau juste avec un talent fou qui vient d'émerger.
D'accord. Et Mathieu Jaton, puisque l'organisation d'un festival ne vous suffit pas, vous avez besoin de travailler jour et nuit, vous lancez une académie et un nouveau café dont on va parler tout à l'heure. C'est quoi cette académie que vous lancez cette année ?
Alors oui, ça c'est un projet un petit peu fou, c'est vrai qu'on a soif de projets. on a en fait en marge du festival une fondation qui s'appelle la Montreux Jazz Artists Foundation, qui s'occupe de tout ce qui sont tous les projets pédagogiques et éducatifs. Donc ça regroupe les 3 concours de piano, voix, guitare, les workshops et toutes les créations. Donc toute cette partie qui est beaucoup plus intimiste et qui permet aux artistes de s'exprimer. Et en fait, on a vu l'impact qu'avaient les concours, et surtout le concours de piano qui va fêter ses 15 ans cette année, avec des artistes comme Peter Cencotti, Yaron Herman, Alfredo Rodriguez, Ilfar Zaravoski, enfin tous ces jeunes talents du jazz qui ont gagné Montreux. Et le dernier en date qui est Jerry Leonide, qui est juste pour moi un diamant brut, qui est même déjà taillé parce qu'il est absolument incroyable.
Ouais. On l'avait entendu d'ailleurs à Paris pour la soirée d'inauguration du Montreux Jazz Café, la gare
de Lyon. Exactement.
Excellent pianiste.
Excellent pianiste. Et en fait, on s'est rendu compte que la valeur de ce concours était assez impressionnante, enfin, avec des jurys internationaux qui viennent et toujours des artistes qui sont dans le jury, mais qu'on avait besoin d'accompagner encore un peu plus ces artistes, et en fait que Montreux Jazz en tant que festival et comme institution pouvait apporter encore plus dans l'accompagnement de ces jeunes musiciens dans le début de leur carrière. Je m'explique, une année le jeune pianiste talentueux cubain Harold Lopez Nussa avait en fait gagné le concours de Montreux. Il avait 18 ans, c'était la première fois qu'il sortait de Cuba. Et donc imaginez-vous, vous arrivez à Montreux, vous avez 18 ans, vous sortez la première fois de votre pays,
oui.
Et vous gagnez le concours. Et là, vous avez juste une sorte de fossé qui s'ouvre sous vos pieds,
ouais.
Parce qu'il y a toute la machine du music business qui se met en place autour de vous. Et vous n'avez aucune arme à 18 ans pour aborder ça. Et nous, on a souhaité en fait créer justement cette académie pour pouvoir accompagner ces jeunes musiciens. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Sur 10 jours au mois d'octobre, on va les accompagner d'abord avec des mentors. Ont déjà accepté de participer des Quincy Jones, Monty Alexander, Angelique Kidjo. Il y aura une dizaine de mentors de ce type-là. J'adorerais justement que Johan de Woodkid puisse venir à cette académie.
Cette année, ils vont venir
ou c'est, oui. Ces mentors ? Oui, cette année au mois d'octobre.
D'accord.
Justement pour accompagner ces jeunes musiciens et surtout échanger, partager avec eux sur leur savoir. On n'est pas dans un cadre scolaire. On n'est pas en train de dire, tiens, tu vas faire 2 heures de cours avec Quincy Jones. Mais c'est vraiment plutôt d'échanger, de participer, qu'il y ait un échange au niveau du monde de la musique. D'accord. On va faire venir aussi des gens, des maisons de disques, des nouveaux médias comme YouTube, SoundCloud, etc. pour apprendre aussi à ces jeunes musiciens c'est quoi l'avenir de la musique demain, comment ça fonctionne quand on émerge et qu'on fait son premier album et qu'on doit gérer SoundCloud, comment ça marche, comment on peut gagner de l'argent, comment on peut en perdre, comment on peut casser son image, comment on peut améliorer son image. Et là justement il y a une troisième partie qui est justement la gestion de l'image sur scène et hors scène, et c'est dans ce cadre là que j'aimerais beaucoup que Johan Woodkid vienne dans cette académie pour montrer comment on peut gérer de manière brillante une image sur le web, avec des compétences artistiques, de design, etc. Parce que enfin, Johan est quand même l'incarnation avec son premier clip de Iron qui a fait le tour du monde, de la gestion de l'image en fait sur le web. Après, en fait, ces musiciens vont aussi travailler sur les archives de Montreux. Et ça, c'est un peu la boucle qui est bouclée. C'est-à-dire que ces archives maintenant sont numérisées. Et on va pouvoir tout d'un coup pendant une demi-journée dire ok, on va travailler sur l'histoire du jazz au travers des prestations de Miles Davis à Montreux, 10 prestations sur 20 ans, et de voir comment la musique jazz a évolué au travers de Miles Davis. Donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes, et en plus on a développé une technologie avec l'école polytechnique fédérale qui permet en fait sur la digitalisation de segmenter les pistes. Et donc par exemple les candidats du concours de piano vont pouvoir jouer sur le concert de Miles Davis, on va retirer la piste du piano, donc on va projeter le concert et le candidat joue en fait avec Miles et comme avec le groupe de Miles.
Concert virtuel avec Miles Davis.
Exactement. Donc imaginez-vous pour ces jeunes musiciens, c'est une expérience qui est juste incroyable. Et donc ils vont subir le concert parce qu'il faudra suivre, parce que le concert lui il va pas s'arrêter.
Oui.
Donc c'est une expérience qui est assez unique évidemment, hein, parce que on se retrouve pas à ça à chaque coin de rue.
Effectivement.
Et après en fait on va vraiment les laisser jouer pendant 10 jours entre eux, et puis espérer que la magie se crée entre l'un ou l'autre des musiciens, ou entre deux, ou entre trois, ou entre quatre musiciens, ce qui va créer en fait le groupe Montreux Jazz de l'année qui va partir en tournée et qui va commencer par un concert au Blue Note de New York, ensuite le Blue Note de Tokyo, le Montreux Jazz Festival à Tokyo, le Montreux Jazz Café à Paris, on espère le New Morning aussi à Paris. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, on va envoyer ces jeunes musiciens en tournée, et une fois qu'on leur a donné tous ces outils, ben, je pense qu'ils pourront partir dans leur carrière avec une expérience complémentaire, quelque chose de plus sur leur CV qui leur donnera une assurance et puis une envie de voler de leurs propres ailes.
Ouais, c'est un vrai soutien que vous apportez aux artistes. Ils pourront peut-être jouer également au Montreux Jazz Café de Montreux. Parce que ça aussi, c'est encore un dossier que vous rajoutez sur votre bureau. L'ouverture prochaine, dans quelques jours, quelques semaines, d'un nouveau Montreux Jazz Café. Il y en avait jusqu'à maintenant 4. Genève, Zurich, Londres, Paris, que vous avez inauguré il y a quelques mois. Et maintenant, Montreux, parce qu'il n'y en avait pas à Montreux, sauf un café temporaire pendant le festival.
Oui, on va dire, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés.
C'est un peu ça, hein, quand même.
Mais oui et non, dans le sens que c'est vrai que il y a une certaine logique là-dedans. C'est vrai que quand on est parti dans l'aventure des cafés comme des ambassades internationales pour le Montreux Jazz Festival, on s'est toujours dit il faudra qu'il y en ait un à Montreux. Mais Montreux, c'est nos terres, c'est chez nous, et on attendait vraiment d'avoir le lieu, l'opportunité qui soit parfaite, parce que c'est clair qu'on peut pas se rater à Montreux, on est vraiment chez nous, donc il faut aussi que la disposition du café soit vraiment représentative. Et là, l'histoire elle est juste magnifique, puisque ce café sera avec pignon sur rue dans le Montreux Palace. Le Montreux Palace qui a une histoire évidemment extrêmement longue avec le festival, qui a accueilli tous les plus grands artistes du festival, qui détient aujourd'hui la suite Quincy Jones, la suite Claude Knobs, la suite Freddie Mercury, et qui se trouve sur l'avenue Claude Knobs. Donc c'était vraiment le lieu rêvé pour implanter un Montreux Jazz Café qui sera en deux parties, une partie restaurant qui s'appelle vraiment le Montreux Jazz Café, et une partie qui est l'ancien Harris Bar, en fait, qui est un lieu plus de nuit avec une petite scène, et qui va s'appeler le Funky Claude's Bar. D'accord. Donc évidemment, en hommage à Claude. Et là, il y aura une petite scène de jazz, et on espère vraiment recréer cette tradition à Montreux de concerts annuels de jazz et dans l'intimité, puisque là, on parle d'une salle de 300 places. Hein.
Oui.
Et donc, voilà, c'est notre nouveau bébé pour ces prochains mois, mais on se réjouit beaucoup, et c'est vraiment une très belle opportunité qui s'est présentée à nous.
Et Claude Knobs le souhaitait depuis aussi des années.
Oui, bien sûr. Dès qu'on a commencé l'aventure des cafés, même quand on a créé le Montreux Jazz Café temporaire pendant le festival, il y avait toujours eu l'envie d'en faire un à l'année. Et là, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron et on s'en réjouit.
Oui, bien sûr. Et ce bébé arrive très bientôt. Hein.
Alors, on a commencé les travaux hier. et on ouvre la première partie, donc la grande partie restaurant plus lounge. On l'ouvre le 26 juin, donc à quelques jours de l'ouverture du Montreux Jazz Festival. Ce qui est évidemment fabuleux parce que les festivaliers pourront découvrir cette année ce nouvel endroit.
Autrement dit, les travaux vont avoir lieu nuit et jour et le week-end hein, pour être prêts pour le 26 juin.
Ah, c'est chaud là.
On veut bien qu'on vous croit.
Bon, on a l'habitude. Hein, avec Paris, c'était pas plus simple. Hein. Donc Paris, c'était en un mois, je crois, où on a dû refaire toute la brasserie de l'Express Bleu transformée en Montreux Jazz Café. C'était quelque chose aussi.
D'accord. Et on retrouvera la décoration que l'on peut rencontrer à Paris ou à Londres, la diffusion des concerts sur grand écran.
Voilà, alors on retrouve tous ces éléments. Au niveau décoration, ça sera quand même un tout petit peu différent de Londres et de Paris. Pourquoi ? Parce qu'étant dans le Montreux Palace, on a décidé d'orienter ce café un peu plus en hommage au style de vie de Claude. Et en s'inspirant beaucoup de sa résidence, son chalet, ce fameux chalet dans lequel il invite en fait tous les musiciens l'après-midi avant leur concert, ce chalet qui est très muséal et qui regroupe en fait toutes les passions de collectionneurs de Claude. Donc quand vous allez arriver dans le Montreux Jazz Café de Montreux, en plus des archives, en plus de la décoration, vous allez retrouver en plus des photos et tout ça, vous allez retrouver en fait des pièces qui font partie de la collection de Claude Nupps, notamment une pièce vraiment extrêmement rare, en fait, qui est le kimono que Freddie Mercury a offert à Claude.
D'accord.
Qui est un immense kimono qui est absolument splendide. Et ça, c'est une pièce très rare. Il y aura évidemment des jukebox, puisque Claude était collectionneur de jukebox. Il y aura ces fameux trains.
Voilà, les trains, oui, qu'on connaît.
Il avait des milliers de trains. Donc là, on est à quelques pièces qui vont venir à Montreux. Et c'est clair que le café Montreux va être dans une approche un tout petit peu plus muséale que les autres cafés, parce que déjà il a pignon sur rue.
Oui.
Et puis c'est aussi, je vous rappelle que le festival a été créé dans un objectif touristique au départ en 1967. Et évidemment, l'Office du Tourisme qui nous a souvent dit, mais quand les touristes viennent à Montreux, ils peuvent rien voir du Montreux Jazz Festival, oui. Ce qui était vrai avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils pourront rentrer dans le café et découvrir notre univers.
Bon, merci beaucoup et bravo Mathieu Jaton pour tous ces projets. Bravo à vos équipes aussi. Et on rappelle que la 48e édition du Montreux Jazz Festival, c'est du 4 au 19 juillet. Et on imagine aussi que vous êtes déjà en train de travailler sur la 50e, mais on a le temps d'en parler.
Exactement, encore un petit projet.
Voilà, et on se retrouvera pour parler de l'Académie et de l'ouverture du Montreux Jazz Café à Montreux. Merci beaucoup Mathieu Jaton.
Merci Benoît, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.